Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, heureux de vous parler en ce 3 avril, alors que j'espère que tout va bien pour vous, alors qu'on s'approche de, un peu plus de 2 semaines du début des séries éliminatoires, de la fin du calendrier de la Ligue nationale de hockey. Donc, bien évidemment, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de la course aux séries éliminatoires aujourd'hui avec mes 3 invités, Jean-François Chaumont, Sébastien Deschambault et Hugues Marcel, qui vont être avec moi sur le balado. On vous donne aussi des nouvelles de Marc-André Fleury, des nouvelles de Jonathan Marchessault, entre autres. Et on va parler de ce qui se passe un petit peu chez les Canadiens de Montréal. C'est le menu aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la tasse de café. Avant de commencer, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, je vous invite, si vous êtes en déplacement ou peu importe, à nous écouter sur toutes les plateformes. On est sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous êtes certain de nous trouver, vous êtes certain comme ça de ne rien manquer lorsqu'il y a un nouvel épisode. Abonnez-vous, là, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter, Instagram et sur Threads. Alors, on lance l'émission avec notre premier invité. Il est journaliste à LNH.com, Jean-François Chaumont. Comment tu vas, JF?
Très bien, et toi?
Très bien, très bien. Grand globe-trotteur que tu es, tu reviens tout juste d'un voyage au Minnesota. On avait parlé la semaine dernière sur le balado. Tu étais à ce moment-là du côté de l'état du hockey. Oui. Minnesota était revenu avec une belle cueillette de textes et d'informations pour le site de LNH.com. D'ailleurs, disons-le, le Wild a été très, très généreux à ton endroit. Tu as pu parler, écoute, peut-être juste le chauffeur d'autobus à qui t'as pas parlé?
À peu près. On a manqué de temps pour le chauffeur d'autobus, mais oui, une petite escapade dans une des merveilles du monde, je dirais, Saint-Paul, Minnesota. C'est un petit peu d'ironie. Très belle ville hockey, amphithéâtre, le Xcel Energy, absolument splendide pour la Ligue nationale, mais point de vue ville, peut-être pas la destination touristique numéro 1. On était là pour le travail, de belles rencontres avec Frédéric Gaudreau, Brock Faber, Marc-André Fleury. On a croisé aussi Thomas Bordeleau des Sharks de San Jose, Jonathan Marchessault des Golden Knights de Vegas. Donc, pour reprendre une expression du milieu, on a passé la gratte en quelques jours à Saint-Paul au Minnesota.
Donc, il y a plusieurs textes à lire sur LNH.com. On va en parler de 2 en particulier, tes rencontres avec les Québécois, Marc-André Fleury et Jonathan Marchessault. On se lance sur Fleury. Une année, bien évidemment, que plusieurs, toi, je ne sais pas, moi, oui, je croyais qu'il était sa dernière année. Je pense que pour lui aussi, c'était le constat qu'il faisait en début de saison, surtout quand les statistiques, les performances n'étaient pas au rendez-vous en début de saison. Et là, tu t'es mis à parler avec Marc-André Fleury, puis ce qu'on se rend compte, c'est attention, la retraite, ça se pourrait que ça attende.
Oui, exact. J'avais préparé une longue entrevue avec Marc-André. On se rencontrait au centre d'entraînement du Wild, dans une petite pièce privée, café, question d'avoir du temps à discuter plus rapide que dans l'environnement typique d'un vestiaire de la Ligue nationale de hockey.
Les gens ne réalisent pas à quel point ça change tout, hein? D'avoir le temps de jaser, là.
Ben oui, puis l'athlète est beaucoup plus ouvert aussi aux confidences. Fleury a tout le temps été chic type, mais bon, on voulait un petit lieu plus tranquille. Puis c'est rare, honnêtement, Nicolas, que je me prépare des questions ou une longue entrevue. J'aime mieux y aller de façon spontanée. Ouais. Là, je me disais, je vais avoir probablement 40-45 minutes avec Marc-André. Je vais me préparer. Mon angle était vraiment concentré sur la retraite. On est à, grosso modo, une dizaine de matchs de la fin de la saison. Comment qu'il vit? Est-ce qu'il y a des émotions qui ressortent? Quel héritage il veut laisser comme gardien de but? Puis à la deuxième question, boum! C'est terminé, mon angle vient de prendre le bord parce que Marc-André me regarde en me disant « Quand on se parlait cet été, j'étais très sérieux. Il s'attendait à vivre sa dernière saison dans la Ligue nationale. Mais dit, plus les jours passent, plus mon sentiment change et j'ai le désir de jouer une autre saison. » Il y a un désir qui est clair pour Marc-André Fleury. Il aimerait probablement revenir, mais pour lui, ça se jouera entre poursuivre sa carrière une autre saison au Minnesota avec le Wild ou accrocher son masque et ses jambières. Bill Guérin, à qui j'ai parlé également, se dit plus qu'ouvert à la possibilité de revoir Marc-André Fleury l'an prochain dans l'uniforme du Wild. Fleury va avoir 40 ans au mois de novembre. Il est déjà le plus vieux des gardiens de but, mais il a encore beaucoup de plaisir. Il disait qu'en début de saison, il avait mal aux hanches. Comme tu disais, le Wild perdait son lot de matchs. Mais dans les dernières semaines, Il y a eu une forme de course aux séries pour le Wild du Minnesota. On s'accrochait à cette possibilité de retrouver le bonheur, le plaisir de jouer au hockey. Puis honnêtement, juste à le voir dans un entraînement, il y a la même intensité qu'un jeuneau de 22-23 ans. Brock Faber, qui le déjoue dans un drill davantage numérique, puis sa première réaction à Fleury, c'est de lancer la rondelle d'un gradin. Tu vois qu'il est furieux. Puis il disait, en riant, c'est le côté que les gens ne connaissent pas.
Mm-hmm.
Fleury est vu pour son grand sourire dans le visage, mais il dit, il a besoin d'avoir encore le feu puis cette drive qui suit un hockeyeur, un athlète professionnel. Donc, fort possible de le revoir la saison prochaine avec le Wild.
Tu parlais, bon, justement, de Fleury. C'est un gardien qui a gagné. Il a eu des épreuves quand même dans sa carrière, mais somme toute, il a toujours joué pour des équipes gagnantes ou presque. Là, on oublie la saison à Chicago, puis on oublie peut-être celle-ci là, avec le Wild. Mais lui, il sent que ses performances, il est encore capable de livrer la marchandise comme gardien 1A, 1B?
Ben, probablement. Marc-André Fleury dira jamais qu'il veut être un gardien numéro 2. Je pense qu'il a trop d'orgueil, mais cette année, il se bat encore avec Philippe Gustafsson à savoir qui est le réel gardien numéro 1. On regarde sa fiche, 17-12-5, 9,01, 2,83. On ne parle pas de chiffres des meilleures saisons de Marc-André Fleury, mais c'est encore respectable. Puis tu parlais, pour lui, c'est quand même une anomalie cette saison. Fleury a toujours participé aux séries dans la Ligue nationale de hockey depuis la saison 2006-2007. Il avait toujours joué du hockey de printemps. Avec les Blackhawks, il avait été échangé au Wild du Minnesota, ce qui lui avait permis de vivre les séries éliminatoires. Donc, cette année, ce sera une expérience différente. Mais je crois que dans la position de Bill Guérin, ce qui force probablement le Wild à revoir Marc-André l'an prochain, il y a peut-être des doutes au sujet de Philippe Gustafsson. Est-ce que Gustafsson est un réel gardien numéro un vers qui on peut se tourner, lui donner 50-55 matchs? N'a pas la même saison que l'an dernier, donc une saison moyenne pour Gustafsson. Et on a un jeune gardien de but du côté de l'Iowa dans la Ligue américaine, Jesper Wallstedt, qui est un choix de premier tour. Probablement lui qui représente le futur devant le filet du Wild. Mais je crois qu'on n'est pas fermé à l'idée de lui donner une autre saison comme numéro un dans la Ligue américaine. Question de bien le modeler, le mouler pour le jour où il sera prêt pour la Ligue nationale. Puis si on cherche un bon professeur, mais Fleury est quand même un bon joueur. Une bonne relation aussi avec Gustafsson pourrait aider Wallstead si jamais il y a des rappels durant la saison. Donc, du côté du Wild, je serais vraiment pas surpris qu'on s'entende avec Marc-André Fleury. Contrat d'un an et le salaire sera réellement pas un enjeu.
Ouais, ben c'est ça là, la réalité, c'est que là, Fleury, c'est Minnesota ou rien.
Exact.
Pas l'intention d'aller ailleurs. Là. Décider que pour sa famille, décider que ça va faire les déménagements. Là, bon, dans les dernières années, là, c'était, si on remonte à 2017, les Golden Knights, ça a été Pittsburgh, Vegas, Chicago, maintenant Minnesota. Ça cette décision-là est arrêtée. Dans le fond, le choix est dans les mains de Bill Guérin présentement. C'est Bill Guérin qui a la carrière de Marc-André Fleury dans le creux de sa main. Là.
Ben, c'est une bonne façon de le résumer. Guérin est toujours le DG chez le Wild du Minnesota. Il y a peut-être le danger. Le Wild ne devrait pas logiquement participer aux séries, à moins d'un miracle. Si Guérin conserve son poste, de ma discussion avec lui, si Marc-André Fleury et Alan Walsh ne sont pas trop gourmands au niveau salaire, ce qui me surprendrait énormément, bien oui, il y a un désir, il y a un mariage qui est fort possible. Puis on parlait de beaucoup de déménagement. Il y a une réalité qu'on oublie parfois, mais les joueurs plus âgés, ils ont des familles. Marc-André Fleury, ses deux filles, il a trois enfants. James est encore jeune. James a commencé à jouer au hockey du côté du Minnesota. Les deux petites filles vont à l'école. Elles ont maintenant un cercle d'amis. Madame Véronique est heureuse du côté du Minnesota. Elle a son club de tennis où elle peut pratiquer son sport, elle aussi. Donc, Fleury, c'est clair qu'il n'a pas envie de déplacer tout son monde encore une fois. Donc, s'il a rejoué, tout le monde est d'accord pour qu'il poursuivre sa carrière, mais ce sera du côté du Minnesota.
T'as-tu posé la question, si jamais il prend la retraite, sa retraite, il revient au Québec ou il resterait là-bas au Minnesota? Il tombe en amour avec, c'est quoi, c'est le Land of the Thousand Lakers? Lakes, ouais, je ne sais plus, là, pas les lacs, Lakers. Là, mais...
Non, beaucoup de lacs, beaucoup de nature du côté du Minnesota. Il serait tiraillé entre revenir du côté du Québec ou vivre aux États-Unis. Je sais qu'il avait adoré également Vegas, mais une réalité qu'on peut oublier, c'est que les enfants de Marc-André Fleury n'ont jamais fréquenté l'école en français.
Oui, c'est ça.
Ils parlent très, très bien français. À la maison, ça se passe en français. Mais le volet académique, ils l'ont toujours fait du côté des États-Unis en anglais.
Donc, vraiment, tout est dans la balance. Il y a une discussion à venir entre Bill Guérin et Marc-André Fleury. De toute évidence, on va s'asseoir à la fin de la saison. Ça ne sera pas le typique meeting de bureau, de nettoyage de les poubelles, comme on appelle là, dans le jargon. Là. Ça ne sera pas là, là. Ça va vraiment avoir une discussion plus profonde entre les deux parties.
Oui, puis même Fleury disait qu'il veut attendre probablement la fin de la saison. Les deux se connaissent. Là. Guérin a été Marc-André Fleury chez les Penguins de Pittsburgh. Mais Fleury disait, par respect, je veux attendre la fin de la saison. On va prendre le temps de s'asseoir. Je veux connaître les plans du Wild. Je veux savoir si je fais encore partie des plans pour l'avenir, mais l'avenir à court terme de cette organisation. Donc, les choses devraient se faire en temps et lieu. Et d'ailleurs, Nicolas, dans la petite recherche, je m'amusais à sortir des chiffres, question de préparer l'entrevue, juste pour illustrer la longévité de la carrière de Marc-André Fleury, 39 ans, plus de 20 saisons maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Je lui ai demandé, es-tu capable de deviner ou de me dire le top 5 des joueurs contre qui tu as accordé le plus de buts? Puis Fleury partit à rire en disant, aucun doute, Ovechkin au premier rang, ouais. Au sommet.
Ouais.
Puis là, après ça, il essayait de trouver d'autres noms. Il dit, ah, il y a certainement quelques gars des Flyers de Philadelphie. Il dit, peut-être Claude Giroux. Giroux se retrouvait effectivement dans le top 10. Ah, il dit Mike Conoball. Il dit lui, c'était le gros attaquant, les grosses fesses devant moi. Je voyais pas quand il déviait un tir. On a commencé à regarder. Il y avait Eric Staal également dans le sommet. Puis j'ai dit si, j'ai pris des notes en regardant les 2000. Il a donné plus de 2000 buts dans la Ligue nationale de hockey. Mais il dit trois fois, tu t'es fait déjouer par un père et son fils. Mike Sillinger, Cole Sillinger, Keith Tkachuk et Matthew Tkachuk. Brady n'a pas encore marqué. Et l'autre duo, c'est Mikael Nylander et, pas William. Alex, mais William Nylander du côté des Maple Leafs. Donc, à ce moment-là, Fleury pouvait réaliser, oui, ça fait longtemps que je suis dans la Ligue nationale quand le fils et le père réussissent à te déjouer.
Oui, non, effectivement. C'est une effectivement. Anecdote. Est-ce que tu avais l'intention d'aborder son après-carrière? Je ne sais pas si tu en as glissé un mot, mais au niveau, avait-il l'intention de rester dans le hockey après sa retraite? C'est-tu quelque chose qui a passé par la tête?
Oui, je lui en ai parlé, mais c'est la réponse classique.
Ouais.
Pour l'instant, il voudrait vraiment se concentrer sur sa famille, redonner à ses trois enfants, passer plus de temps à la maison. Mais le hockey est tellement important pour lui que je crois que c'est pas impossible. Mais d'avoir un poste qui gruge beaucoup de temps, qui lui demande d'être à l'aréna tous les jours à court terme, je pense pas que c'est un scénario qui serait envisageable pour lui.
Bon, ben écoute, on va suivre tout ça d'ici cet été. Ça va être intéressant. Mais écoute, il est toujours bien. Là, il est troisième au niveau des victoires dans l'histoire de la Ligue. Il pourrait en acheter quelques-unes.
Deuxième,
c'est vrai. Passer Patrick Roy dans le coin du temps des fêtes. Ah non, ça avait été un petit peu plus long. Février, je pense début février, là, ces coins-là.
Cette saison, Nick.
Il est deuxième. Ouais, la saison est longue. Hein? On voit le 20 avril arriver. On a hâte que ça arrive. Le début des séries éliminatoires, ça devrait être le 20 avril cette année. Là. On commence à avoir hâte que ça arrive. Je te parle d'un joueur qui, lui, si tout va bien, va être en séries éliminatoires. Jonathan Marchessault, ça va très bien. Pour lui, encore hier, 3 points. Il en a 66 en 75 matchs cette année. Surtout, il a atteint le plateau des 40 buts. Il l'a fait devant toi, pas parce que tu étais là, bien évidemment, mais ça a donné qu'il était là dans une situation... Écoute, le Wild a tenté dans ce match-là, le tout pour le tout, encore une fois, retirer le gardien en prolongation. Puis cette fois, c'est Marchessault qui en a profité pour avec un long tir pour marquer. Lors de cette visite-là au Minnesota, tu as parlé avec Jonathan. Son contrat prend fin cette année. Il a 33 ans. Il n'y a pas de signe de ralentissement. Au contraire, on dirait que ça s'accélère pour Jonathan Marchessault. C'est le meilleur buteur, c'est le meilleur pointeur de son équipe. Comment il voit ça, cette fin de contrat-là? Comment il entrevoit les prochaines années de sa carrière? Est-ce qu'il les entrevoit à Vegas? Est-ce qu'il les entrevoit ailleurs?
Jonathan Marchessault a une grande, grande, grande qualité en entrevue.
Ah, je sais où tu t'en vas.
C'est son honnêteté.
Et
c'est
voilà.
Impossible pour lui de raconter une histoire ou un petit mensonge.
Pire menteur de la Ligue nationale de hockey.
Je lui ai posé la question à savoir si son... désir était de poursuivre sa carrière avec les Golden Knights de Vegas? La réponse est probablement oui. Mais il dit d'une façon réaliste, je ne comprends pas ou je ne vois pas où mon contrat pourrait rentrer au sein de la masse salariale des Golden Knights. Du côté des attaquants, là, Kelly McCrimmon, le DG à Vegas, Jack Eichel, 10 millions, William Karlsson, 5,9, Ivan Barbashev, 5 millions. On regarde un petit peu plus loin, ceux qui sont présentement sur la liste des blessés à long terme, Mark Stone, 9,5 millions, Thomas Sertel, 6,75 millions. On parle déjà de 5 attaquants à plus de 5 millions. À la ligne bleue, Alex Pietrangelo, 8,8 millions. Chez Theodore, 5,2 millions. Ça fait beaucoup de monde à Metz si on souhaite garder Jonathan Marchessault. Et pour lui, on parle d'arguments pour négocier un prochain contrat. Il arrive avec Pat Brisson, quand même des arguments béton. Le trophée Conn Smythe, pas plus tard qu'au printemps 2023. Une saison de 41 buts pour l'instant, 66 points. Ce qui me marque aussi de la conversation, c'est de voir un petit peu de tristesse dans le discours de Marchessault en disant « J'aurais peut-être cru à une plus grande loyauté. Je suis un membre des Golden Knights de Vegas depuis la saison 1, depuis le premier jour. » Mais il racontait que le hockey, c'est un sport qui te garde terre à terre. Même si tu crois que tu le mérites, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la même réflexion du côté des dirigeants des Golden Knights. J'ai posé la question à Kelly McCrimmon que j'ai croisé dans un corridor. Est-ce qu'il y a toujours un mariage possible à la fin de la saison entre Marchessault et les Golden Knights? Et McCrimmon a été gentil en disant « Merci de poser la question, mais je ne toucherai pas à ce sujet. » Il a plutôt voulu parler de l'impact de Marchessault au sein du vestiaire. C'est un joueur qui est intense. C'est un joueur qui amène beaucoup d'énergie à l'équipe. Juste à jouer au hockey, il y avait un match. C'est celui qui crie le plus fort dans le corridor, veut gagner. Quand il a marqué son but dans un filet désert, son 40e de la saison, Bruce Cassidy riait en disant « Oui, je suis heureux pour lui. Atteindre 40 buts, c'est quelque chose de spécial. » Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on était à 3 contre 4 parce qu'il venait de retirer le gardien. Puis il dit là, il dit « Marchessault va venir cogner à mon bureau, va vouloir jouer en désavantage numérique, va vouloir être sur la glace quand il reste 30 secondes pour protéger une avance, même si ce n'est pas des missions qu'on lui confie. » Mais c'est un joueur qui en demande, qui en veut toujours plus, même à 33 ans. Puis un aspect que j'ai trouvé le fun, je parlais de l'honnêteté de Marchessault. Hier, du côté de Montréal, mardi soir, Nick Suzuki atteint le plateau des 70 points. On lui parle des 70 points. Le cliché. Suzuki ne veut pas parler de chiffres, etc.
Oh, ouais.
Jonathan Marchessault, lui, est-ce qu'il y a 40 buts? Il peut y avoir un symbolique quelconque? Puis il disait absolument. Toute ma vie, je vais pouvoir dire que je suis un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale de hockey. Il était très heureux de voir le chiffre 4 devant la dizaine pour les buts. Il a même comparé son parcours à Martin Saint-Louis comme étant une grande inspiration. Il disait s'il peut avoir la moitié de la carrière de Martin Saint-Louis, il en serait très, très heureux. Mais déjà, Marchessault, 40 buts, plus de 30 buts à 3 reprises, gravé son nom sur le trophée Conn Smythe pour un joueur jamais repêché. Puis ça, c'était un autre. Il l'a encore une fois mentionné en disant il y a tellement d'équipes, toutes les équipes l'ont boudé au repêchage. Puis aujourd'hui, bien, il s'établit comme un des très bons attaquants de la Ligue nationale de hockey.
Bien, c'est ça, j'allais dire aussi la différence, c'est que Nick Suzuki, c'est un choix de première ronde. C'est un joueur que tout le monde, on voit comme... Tu sais, il est sur la traque normale de développement d'une... Je ne vais pas dire vedette, là, mais d'un joueur de premier trio. Jonathan Marchessault, moi, je me souviens. Écoute, je vais juste vérifier pour être certain de ne pas dire n'importe quoi. Mais Jonathan Marchessault, exactement. Jonathan Marchessault n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey, mais a été repêché dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, ça te dit à quel point, à la fin de son stade junior, c'est pas là, on voyait surtout pas un marqueur de 40 buts dans la LNH à l'époque. On voyait un joueur dont la carrière professionnelle allait probablement être très courte, allait revenir au Québec, puis allait jouer dans la Ligue nord-américaine ou en Europe. Mais c'était ça à la fin avec les Remparts. Et on peut pas reprocher à Jonathan Marchessault cet été de vouloir être payé. Parce qu'il n'a jamais été payé de sa carrière. Même encore, tu regardes le salaire qu'il fait aujourd'hui, là, il fait 5 millions par année. Quand on compare avec son niveau de performance, Barbashev fait le même salaire. Si tu me demandes lequel des deux je prends en premier, je prends Marchessault. Donc, c'est un joueur qui n'a jamais probablement été payé à la hauteur de ce qu'il amène à une équipe. Tu peux pas à Vegas, on ne pourra surtout pas lui reprocher de ne pas vouloir prendre un rabais local parce que justement, c'est un des premiers des premiers Golden Knights, un des Golden Misfits. Là. On peut pas reprocher ça. Puis on le comprend, il va vouloir passer à la banque et c'est parfaitement compréhensible.
Non, non, puis je regarde, tu parlais, Nicolas, de Ligue nord-américaine. Au niveau du junior, les Remparts de Québec l'ont repêché 208e au total.
12e ronde.
12e tour en 2007. Donc, c'en est un qui a eu, au pic et à l'appel, il a tracé son propre chemin. Puis Marchessault, tu as entièrement raison. Pourquoi Jonathan Marchessault accepterait un contrat à rabais? Les autres gros canons des Golden Knights qui ont été acquis par transaction ou sur le marché des joueurs autonomes, Eichel arrivait avec son salaire de 10 millions. Du côté de Saint-Louis, Alex Pietrangelo arrivait avec son salaire de plus de 8 millions. Donc, Marchessault va vouloir sa juste part du gâteau. Il a 33 ans. C'est probablement le dernier gros contrat qu'il pourra négocier. Et la qualité de marqueur, ça reste une des qualités les plus recherchées au niveau de la Ligue nationale de hockey. Jonathan Marchessault, s'il ne réussit pas à s'entendre avec les Golden Knights, on va cogner à sa porte. On va cogner à la porte de Pat Brisson. Il va recevoir énormément de propositions le 1er juillet prochain. Ça sera un dossier à surveiller de près, disons.
Quand on regarde les différents contrats qui ont été signés ici et là dans la Ligue, c'est quoi la valeur pour non seulement performance, mais il faut considérer que logiquement, si on parle d'un contrat de 6 ans, ça devrait tourner 5-6 ans là, normalement. Là, je pense pas qu'il va accepter plus court que ça. Quelle est la valeur salariale de Jonathan Marchessault?
C'est une bonne question. Le nerf de la guerre risque d'être la durée de l'entente, étant donné qu'il y a déjà 33 ans. Peut-être que le salaire annuel va diminuer un petit peu plus les années associées au contrat. Le chiffre va être gros. Mais à mes yeux, je serais surpris que ce soit en bas de 6,5, 7,5 millions même. Pour c'est un marqueur de 40 buts cette saison.
Il n'a pas 100 000.
C'est pas non plus une saison où tout roule. Là. C'est pas une erreur de parcours. Marchessault était déjà un marqueur de 30 buts. C'est un joueur qui continue en donnant encore plus. Autour de 7 millions, d'après moi, c'est pratiquement le chiffre minimum pour Marchessault.
Et Marchessault n'est jamais blessé. Le 33 ans, jamais blessé. Il n'a jamais manqué plus que 6 matchs dans une même saison depuis qu'il est dans la LNH. Donc, je te pose la question qui tue pour reprendre le terme de la populaire émission « Tout le monde en parle » ici au Québec. Tu es Canadien de Montréal. Est-ce que tu regardes du côté de Marchessault avec le groupe de jeunes que tu as en place présentement?
C'est une très bonne question. Kent Hughes, Jeff Gorton vont disposer d'un coussin de l'espace salarial pour peut-être attirer un ou deux gros noms. Moi, c'est plus l'âge. J'ai de la misère à y répondre.
Ton vétéran parmi tes jeunes, ton vétéran que tu sais qu'il va ralentir, mais t'es prêt à prendre son contrat, à garder son contrat un peu comme...
Ça dépend du nombre de saisons. Je crois, idéalement, du côté du Canadien, si jamais il y a une fenêtre, une possibilité, je crois qu'on ne voudrait pas aller en haut de 3 ans avec un joueur qui a déjà 3-4 ans peut-être au maximum. Mais c'est le type de joueur qui viendrait occuper une chaise importante au sein d'un top 6. Ça t'amènerait tellement d'armes offensives différentes. Cole Caulfield et Marchessault sur les ailes, Juraj Slafkovský, les deux premiers centres, Nick Suzuki, Kirby Dack, tu commencerais à parler d'une équipe de hockey, mais est-ce que ça arrive trop tôt dans le processus de reconstruction du Canadien pour y aller immédiatement avec le gros nom, le gros contrat, puis aussi la structure salariale de l'équipe? Suzuki demeure celui qui a le meilleur contrat, suivi de Cole Caulfield. Le Canadien, tôt ou tard, devrait renégocier avec Juraj Slafkovský, Caden Goulet, etc. Donc, j'ai tendance à dire que le CH risque de jouer encore de sagesse dans ce dossier. Et je me demande si Marchessault aurait un réel intérêt, mais ça, je ne veux pas répondre pour lui. Mm-hmm. Pas du tout. Donc,
Adjoint d'une équipe qui est sur papier encore en reconstruction, à moins que ça explose.
En même temps, il y a le défi peut-être de venir jouer dans sa propre province. Mm-hmm. Je crois qu'il va offrir une chance aux Golden Knights d'abord et avant tout par loyauté. C'est l'équipe avec qui il a gagné la Coupe Stanley. C'est l'équipe avec qui il connaît ses plus beaux moments dans la Ligue nationale de hockey. Et historiquement, s'il y a une équipe qui nous a permis de comprendre que c'est possible de faire de la gymnastique ou de transformer une calculatrice en une baguette magique, ce sont les Golden Knights de Vegas. Donc, attendons voir s'ils seront capables ou non de retenir ces services.
Effectivement. On parlait des Canadiens. JF, je t'emmène en terminant sur le match d'hier contre les Panthers. Victoire surprenante, une autre de la part des Canadiens contre une équipe de haut de plateau. Victoire de 5-2 hier contre...
5-3.
5-3, excuse-moi, oui, c'est vrai, il y a eu le but en fin de match. Mais chez les Panthers, c'est plus difficile présentement. On a 8 défaites en 10 matchs. Est-ce que tu te montres un peu inquiété parce qu'on voit surtout là, on verra, je ne sais pas, Aaron Ekblad, je ne sais pas si on a eu une mise à jour, là, mais il a été blessé hier lors d'une échauffourée. Donc, les Panthers, soudainement, après avoir vraiment connu un milieu de saison spectaculaire, là, on a un ralentissement dans ce qui est peut-être au pire moment de la saison.
Oui, au pire moment, mais en même temps, les Panthers ont leur participation en série depuis déjà quelques jours. Et ils se battent pour terminer peut-être au premier rang de la division avec les Bruins de Boston. Là, maintenant, ils n'ont pas le choix. Ils devront regarder derrière eux. Les Maple Leafs commencent à souffler. S'ils veulent s'assurer de l'avantage de la glace, ils vont devoir ouvrir la machine. Paul Maurice se disait pas inquiet, mais un petit peu fatigué des blessures. En fin de match, à 5-3, il a choisi de ne pas retirer son gardien. Puis il a expliqué en disant « Bien, il y a eu un malheur qui nous serait arrivé. Quelqu'un aurait reçu un tir sur le patin. Je voulais pas risquer de voir un de mes joueurs se blesser. » C'était peut-être aussi une façon de lancer un message à son équipe en disant « Vous avez pratiquement pas travaillé de la soirée. Vous le méritez pas. Je garde Stollard dans le filet. » Mathieu Tkachuk était malade du côté de Montréal. Apparemment qu'il y a un virus aussi qui court au sein de l'équipe. Donc, c'est peut-être une fatigue de fin de calendrier. Carter Verhaeghe, c'est peut-être le cas le plus inquiétant. Verhaeghe avait reçu un coup sur une main contre les Maple Leafs à Toronto. Et du côté des Panthers, on parle d'une absence qui serait évaluée de semaine en semaine. Donc, pourrait revenir d'ici la fin de la saison dans les derniers matchs. Question d'être prêt pour le début de la saison. Puis Ekblad, Ekblad, lui, c'est son escarmouche en fin de première période avec Juraj Slafkovský. Deux premiers choix au total qui ont décidé de se chamailler. Et Ekblad a peut-être réalisé que Juraj, 6'3", 230 livres, commence à découvrir aussi que c'est un gros bonhomme. On ne l'a pas revu du match. C'est un défenseur clé pour les Panthers. J'imagine que Bill Zito et Paul Maurice se croiseront les doigts pour qu'il n'y ait rien de sérieux.
On verra bien. Le Lightning de Tampa Bay qui s'amène, donc, les deux anciennes équipes à Jonathan Marchessault, ironiquement, qui s'amène à Montréal. Je vais en parler dans quelques secondes avec mes deux prochains invités. Mais toi, GF, écoute, je te laisse partir. Vois-tu, je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui sur le balado. Je vais m'occuper du reste avec les gars. Mais merci. Puis quoi, on va se reparler la semaine prochaine probablement sur toujours.
Sans faute. Mais si sans les faute. Panthers en arrachent, c'est le contraire pour le Lightning.
Ben, c'est
donc,
ça.
Deux équipes floridiennes qui ont des destinées différentes en fin de saison.
Vois-tu, c'est pour ça que je ne voulais pas te lancer. Parce que là, je sais que tu seras plus capable de te retenir. Puis finalement, on va analyser le Lightning au complet avec...
Non.
Avec Sabé et Hugues. Mais oui, Lightning, ça va beaucoup mieux après un début de saison qui était très difficile. Ce serait drôle que les deux équipes s'affrontent en première ronde. Hein. C'est pas impossible non plus, tout dépendant ce qui va se passer dans les...
Il y a encore beaucoup de probabilités les deux associations.
Ben,
mais Seb, je dois arrêter de parler. Là. Je vois tes yeux. Donc, on se reparle mercredi prochain sans faute.
Salut GF, à la prochaine.
Bye bye.
Alors allons-y, on poursuit le balado avec nos deux prochains invités. Vous les connaissez, Sébastien Deschambault. Salut Seb.
Salut Nick, salut les boys.
Et Hugues Marcille, salut Hugues.
Salut Seb, salut Nick.
Ça va messieurs?
Bien toi?
Ça va très bien toi-même.
Est-ce que ça va pour vous aussi bien que ça va pour le Lightning que je parlais avec GF?
Ben là, à un moment donné, là, tu nous comprends que les meilleurs, tu sais.
Il y a des limites au bonheur, là, à un moment donné. Là.
Exactement.
On a gagné la Coupe Stanley 2 ans de suite, moi, là, Nick. Là,
ouais, je te parlais du Lightning plus présentement en saison qu'à l'époque où la COVID était encore existante et tout ça. Là, là.
Mais ils ont l'air d'une équipe qui pourrait faire un bout de chemin en série, qui pourrait surprendre, même s'ils occupent la première place de quatrième mars.
C'est une fin de saison qui est spectaculaire. On regardait un peu les statistiques. Là, depuis le 9 mars, le Lightning est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey avec une fiche de 8 victoires, une défaite en prolongation. Pour une équipe qui, ça a été très, très difficile cette saison au niveau des blessures. On se souviendra, André Vasilevski a raté le début de la saison, a été opéré au dos pendant le camp d'entraînement. Tu le sais, normalement, quand tu te fais opérer au dos pendant le camp d'entraînement, c'est que ça aurait pu être fait avant, mais on pensait que tu allais être correct pour la saison, puis finalement, ça ne sera pas assez. ça a été long avant de se mettre en marche. Tu sais, statistiquement, André Vasilevski, cette année, c'est pas une grande saison, mais là, il tente de finir en force. Nikita Kucherov, il est au plus fort de la lutte pour le trophée Art Ross présentement. Il est avec... avec Connor McDavid, avec Nathan MacKinnon, il y a seulement un point. McDavid est à la traîne par un point, mais bon, a joué quelques matchs de moins en comparaison avec MacKinnon, 4 matchs de moins. Kucherov est dans le bain aussi, 42 buts pour Kucherov, mais là, il n'est pas le seul à faire le travail offensivement chez le Lightning.
Non, exactement. Puis on s'entend que tout ça, là, toutes ces belles statistiques-là des derniers mois chez le Lightning, ça a été fait sans Mikhail Sergachev. Donc,
c'est ça.
D'autant plus impressionnant. Nikita Kucherov, oui, on parle de sa séquence, de cette saison-là. Pas, sans dire qu'il a travaillé tout seul là, pendant longtemps. Là, il y avait des statistiques incroyables. Braden Point, la compagnie, le reste de l'équipe, Steven Stamkos, sans avoir une mauvaise saison, quand même. C'est ça, exact. On commence. Fait que, tu sais, il y a quand même 45 points d'avance sur Braden Point, Nikita Kucherov. Là. Donc, c'est vraiment une saison individuelle, époustouflante qu'il est en train de connaître. Il a même trouvé le moyen d'hausser son jeu d'un cran là, dans la dernière séquence du Lightning. Là. Donc, il amasse plus de 2 points par match depuis les 10 dernières parties. Donc, oui, la course pour le trophée Art Ross est au cœur. La course pour le trophée Art, comme tu as dit, on a été privé de plusieurs morceaux. On a parlé de Sergachev, on a parlé de Vasilevski. Donc, que cette équipe-là soit quand même en position de faire les séries avec 2 piliers de cette équipe-là qui ont manqué des longues périodes, ça donne encore plus de poids là, à la saison de Kucherov.
Oui, puis tu as parlé, Nick, d'Andrei Vasilevski en introduction. Puis je pense que oui, il y a Kucherov, mais pour moi, Vasilevski est peut-être le joueur qui explique le plus cette bonne séquence-là du Lightning, parce qu'on connaît tous, le dicton, nomme-moi une bonne équipe, je vais te nommer un bon gardien. Présentement, bon, Vasilevski, tu l'as dit, n'a pas eu une bonne saison, mais depuis le 9 mars, il est quand même spectaculaire lui aussi, fiche de 7-1-1, pourcentage de 926, moyenne de 213, puis on revoit un peu le Vasilevski dominant des dernières saisons. Tu sais, je regarde juste avant le 7 mars, quand ça allait, tu sais, correct pour le Lightning, c'était pas rare qu'on voyait Andrei Vasilevski accorder 4-5 buts par match. Tu sais, je regarde là, du 19 février au 7 mars, là, il a accordé 4 buts ou plus à 4 reprises. Là, donc 5, même si on ajoute le match du 17 février contre les Panthers, il en avait accordé 6. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence présentement. Et tu sais, je pense que le Lightning qui entre en série avec un Vasilevski au sommet de sa forme, ça pourrait faire beaucoup, beaucoup de dommages. Et c'est pour moi ce qui explique les succès de l'équipe présentement, là, en plus de, évidemment, de Kucherov, qu'on peut pas, dont les performances, on ne peut pas passer ça sous silence. Là.
Et là, bon, match très important ce soir. Là, on enregistre, là, tout dépendant quand vous allez nous écouter à la maison. On est mercredi matin. Match très important ce soir entre les Maple Leafs et le Lightning. Quand on regarde le classement présentement, 89 points pour le Lightning, 95 pour les Maple Leafs. C'est un écart qui est quand même important. Puis les Maple Leafs qui vont quand même bien avec 3 victoires consécutives. Mais si on vient gagner ce match-là, il y a plus que 4 points d'écart. Ça te permettrait de te placer dans une situation où... Si tu rejoins, si tu vas chercher les Maple Leafs, tu affronterais les Panthers, et on en reparlera plus. On vient d'en parler avec GF, mais ça va pas très bien pour les Panthers. Est-ce que cette équipe-là rentre en séries éliminatoires, les Panthers, avec le vent dans le dos? Présentement, non. C'est plus intéressant que probablement affronter ce qui devrait être les Bruins de Boston ou même peut-être les Rangers de New York si tu te retrouves dans le rôle de quatrième as. Le Lightning se doit de l'emporter ce soir-là.
Effectivement, match très important, mais moi, je sais pas si... Je comprends qu'ils vont pas bien présentement, mais je sais pas si je suis le Lightning, si je préfère pas affronter les Bruins de Boston plutôt que les Panthers de la Floride en première ronde des séries éliminatoires, là, dépendamment de ce qui va se passer au classement. Mais oui, effectivement, les Panthers vont pas bien présentement, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une équipe bâtie, tu sais, un peu plus pour les séries que les Bruins. Bon, pour revenir au Lightning et au Maple Leafs, moi, personnellement, je pense pas que le Lightning va arriver à rattraper les Maple Leafs. Le 6 points d'écart, c'est quand même un gros écart à aller chercher. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Maple Leafs jouent quand même du bon hockey présentement. 3 victoires de suite, vont retrouver Mitch Marner en fin de semaine. Morgan Riley qui revient ce soir très fort probablement là, contre le Lightning. Et pour oublier une chose non plus, je regardais avant qu'on commence le podcast, le calendrier des Maple Leafs pour terminer la saison, c'est Montréal, Pittsburgh, New Jersey deux fois, Détroit, et on termine contre Floride et Tampa Bay. Fait qu'à mon avis, à moi, pas le calendrier le plus difficile. Là, je veux dire, je pense que Montréal, Pittsburgh, New Jersey, c'est quatre adversaires. C'est trois matchs. Ils jouent deux fois contre le New Jersey. Là, fait que c'est quatre matchs prenables. Même les Red Wings, pas le choix de dire que les Red Wings, c'est une course de tortue dans l'Est. On a l'impression que les Red Wings n'ont pas le goût de faire les séries tant que ça. Fait que je sais pas, moi, je pense pas que le Lightning va rattraper les Maple Leafs. Et je sais pas, comme je vous dis, je me demande si c'est peut-être pas une bonne chose, parce que moi, à la place du Lightning, j'aimerais peut-être mieux affronter Boston que les Panthers. Vous serez en accord ou en désaccord, on peut en débattre. Mais bon, comme le dit le dicton, qui choisit prend pire, donc le Lightning nous dira pas qui des deux préfère affronter.
De toute façon, là, avec le classement est tellement serré là, que les équipes vont pas commencer à stratégiquement placer des défaites dans leur calendrier pour choisir leur adversaire. Donc, moi, je suis d'accord avec eux dans le sens où je pense pas qu'on va voir le Lightning rattraper les Maple Leafs, mais c'est pas à cause du Lightning, c'est à cause des Maple Leafs qu'il faut. On parle beaucoup là, à quel point le Lightning est la meilleure équipe de la Ligue depuis environ un mois, mais les Maple Leafs ne donnent pas leur place malgré l'absence de Marner, malgré l'absence de Riley. On marque à profusion malgré l'absence de Marner, malgré une attaque à 5 anémique, et on continue quand même à marquer des buts à profusion. Donc, je pense que les Maple Leafs, non seulement vont résister à la charge du Lightning, mais les Panthers vont devoir connaître une très bonne fin de saison pour conserver l'avantage de la glace, parce que tout dépendant de la sévérité de la blessure d'Aaron Ekblad, on sait qu'on va être privé de Verhage pendant plusieurs semaines. Mathieu Tkachuk, c'est un virus. Apparemment que le virus est quand même assez présent dans le vestiaire. Donc, c'est choses qui arrivent au mauvais moment là, chez les Panthers.
Ouais, c'est ça, tu rentreras pas. Puis l'an passé, on se souvient, les Panthers étaient rentrés en séries éliminatoires vraiment à pleine vitesse sur le dos d'Alex Lyon, qui avait connu beaucoup de succès en fin de saison, puis Bobrovsky était venu prendre la relève. Je vous amène, c'est intéressant de voir que les Canadiens vont quand même avoir un gros rôle, parce que là, match Toronto-Lightning ce soir, mais le Lightning est à Montréal jeudi, et ensuite, c'est les Maple Leafs qui s'amènent à Montréal samedi, donc le Canadien va avoir, puis le Canadien joue bien présentement, va avoir un bon mot, tu sais, s'il veut jouer les troubles fêtes, là, puis montrer que l'équipe est en progression, c'est deux bons matchs, c'est deux matchs intéressants, avec celui des Panthers contre les Panthers hier, là, qui vont pouvoir jouer les troubles fêtes. On regarde un peu la situation chez les Maple Leafs. On t'en a parlé, Hugues, Morgan Riley est de retour, devrait être de retour ce soir. Marner, ça pourrait être contre les Canadiens samedi. Et là, Austin Matthews est en feu là, depuis 8 matchs. Là. Il a été cherché. Écoute, j'avais les statistiques directement devant moi. Il a 16 points en 8 matchs, 7 buts là-dessus lors de ces 8 derniers matchs. Et sur ces 16 points, il y a seulement 2 points en avantage numérique. Donc, la grande majorité de sa production vient du jeu à forces égales où il joue avec Tyler Bertuzzi puis Max Domi. Bon, premièrement, j'avais pas ça sur ma carte de bingo que ce seraient les deux joueurs qui feraient marcher Austin Matthews à ce point-là cette année. Mais là, avec Mitch Marner qui revient, comment tu ramènes Marner dans cette dynamique-là où ça va tellement bien? Je sais que sur papier, c'est facile de tasser Bertuzzi ou Domi, mais somme toute, ça va bien. Puis là, tu ramènes un Marner qui sera peut-être pas à son summum, là, ce soir, ça va être son 12e match qui va manquer en raison d'une élongation à la cheville. Je me demande un peu comment on va ramener Marner alors que l'équipe fonctionne bien. Comment on va l'intégrer ou on va juste pas se poser de questions puis on va y aller avec le bon vieux duo qui a somme toute donné quelques bons résultats dans les dernières années.
Ben, je pense que tu as répondu avec ton dernier élément de réponse. Le nom déplaise à Todd Bertuzzi. Pas Todd, mais Tyler Bertuzzi.
Oui, Todd,
on salue son nom. Et Max Domi, Mitch Marner va reprendre sa place là, sur le haut côté de Austin Matthews parce que, bon, tu sais, je dirais, avant la blessure à Marner, Austin Matthews avait quand même eu 19 points, dont 13 buts, je pense, à ses 14 derniers matchs avec Marner dans la formation. Donc, c'est pas comme si on allait, il avait trouvé la fontaine de jouvence. Oui, ça va très bien, mais il marquait quand même avec Marner quand il était là. Et là où ça va être encore plus flagrant, c'est que tu en as parlé, c'est l'avantage numérique. C'est, depuis la blessure de Marner, c'est les Maple Leafs de Toronto ont le pire avantage numérique de la Ligue nationale et ont quand même trouvé le moyen d'être la meilleure attaque de la Ligue nationale. Donc, de ramener un joueur comme Morgan Riley à très court terme et Mitch Marner va rendre les Maple Leafs de Toronto encore plus épeurants. Dans la dernière ligne droite, on a vraiment dans l'idée là, que les Maple Leafs, je sais pas, on dirait que on pense que les Maple Leafs ne vont pas bien présentement, on dirait, à force de parler du Lightning, puis mais pourtant, ils vont très bien malgré les blessures. Donc, je pense qu'on va se casser le bessic ben en bon français.
Je reviens sur le point que tu amènes, à quel point l'avantage numérique ne fonctionne pas depuis que Marner... Écoute, tu as dit depuis quand?
Depuis le 8 mars, depuis Marner... Okay,
depuis que Marner n'est pas là. Mais l'absence de Morgan Riley aussi, c'est là que tu vois qu'une fois que Morgan Riley n'est plus dans cette formation-là, il te manque... beaucoup de production offensive, le jeu de puissance. C'est un défenseur, je ne veux pas dire sous-estimer Morgan Riley, mais lui-même, lorsqu'on parlait des formations pour les Jeux Olympiques, on lui a demandé, puis certains lui ont dit à Riley, tu pourrais être sur l'équipe canadienne. Sa réponse avait été, je ne penserais pas, ou à peu près, là, c'était, on verra bien, là, mais ça. Tu sais, il avait l'air du gars qui sait qu'il ne ramènera pas la plus belle fille du bal. Ça ressemblait un peu à ça là, de son côté, Morgan Riley. Mais dans cette formation-là, Morgan Riley a beaucoup d'importance. Puis effectivement, parce que quand je regarde cette défensive-là, c'est pas une défensive qui, à mon avis, t'amène loin en séries éliminatoires. Là, Ilya Samsonov joue du bon hockey, somme toute. Puis, mais je regarde cette défensive-là, puis tu sais, Connor Timmins présentement, là. Qui est sur le premier jeu de puissance. Timmins, quand il n'est pas sur le premier jeu de puissance, il n'est pas dans la formation. C'est un ou c'est l'autre dans son cas. Je regarde cette défensive-là et je maintiens que je ne vais pas loin en séries éliminatoires avec une telle brigade.
C'est suspect, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi, Nick. Tu sais, tu parles de l'importance de Morgan Riley. Je pense que une des choses, c'est que Morgan Riley est peut-être le seul défenseur de cette brigade-là avec un profil offensif vraiment... Claire. Clair. Bon, en son absence, il y a eu Timothy Liljegren qui a fait du quand même du bon travail. Là, tu le regardes depuis le début du mois de mars, 7 points en 12 matchs. Mais il s'est blessé récemment, Liljegren. Donc là, on perd le seul défenseur qui avait peut-être, tu sais, qui avait la touche offensive, qui peut un peu remplacer ce que Riley apportait. Tu sais, je regarde après ça, TJ Brody, Jake McCabe, Ilya Lyubushkin. Tu sais, Lyubushkin, c'est un défenseur défensif très robuste. McCabe, plus un défenseur, tu sais, un gars qui va bloquer des tirs. Giordano, c'est un vétéran. Joel Edmondson, un peu le même profil. Simon Benoit, gros défenseur, tu sais, qui donne des grosses mises en échec percutantes. Lui, c'est un gars qui est plus à caractère défensif. Donc, c'est certain que remplacer un gars comme Riley dans ce contexte-là, c'est difficile.
Est-ce que vous êtes les deux plus rassurés si on regarde la formation qu'il va y avoir sur la glace ce soir, si justement on y ajoute Riley, Edmondson et Liljegren, si tout le monde réussit à être en santé pour les séries éliminatoires? C'est-tu plus rassurant ou encore là, c'est une défensive, c'est une brigade moyenne?
Moi, j'ai plus l'impression que ça va... Seb, je te laisse aller. J'ai plus l'impression que ça va jouer devant le filet. Je pense que l'équipe, avec les munitions offensives qu'ils ont, cette défensive-là, peuvent tenir le coup en séries éliminatoires, mais ça va jouer devant le filet. T'sais, est-ce que Ilya Samsonov, c'est tout le temps des hauts et des bas présentement, que tu l'as dit, Nick joue du bon hockey, mais au début de la saison, il était renvoyé dans la Ligue américaine. Donc, à quel Ilya Samsonov on va avoir droit en séries éliminatoires? La saison dernière, c'était pas extra.
Ça peut déraper rapidement avec Ilya Samsonov.
Oui, mais il jouait blessé, je pense, là, quand même. Ça va plus se jouer dans le filet. Là.
Souviens-toi l'année d'avant avec les Capitals de Kovechkin, l'Anguirlandais à partir du banc parce que t'es pas satisfait des performances. Tu sais, Samsonov n'a jamais rien prouvé en séries éliminatoires.
C'est toujours des hauts et des bas. Les hauts sont très hauts et les bas sont souvent très bas avec lui. Donc, je pense que c'est plus là que ça va jouer.
Mais les gardiens dont les performances fluctuent comme ça, on a besoin de bien les protéger. Adin Hill, l'année dernière, jouait comme un triple gagnant du Trophée Vézina avec les Golden Knights, mais c'était surtout qu'il y avait une brigade défensive tellement étanche et imposante devant lui. À la date limite, les Maple Leafs ont décidé d'aller chercher ce même type de profil-là, les Edmondson et puis les Lyubushkin. On est allé chercher des gros défenseurs qui étaient supposés faire le ménage devant leur gardien. Mais reste qu'il faut que cette brigade défensive-là soit capable de relancer l'attaque. Et puis, c'est pour ça que Riley est primordial, essentiel à cette ligne-là, parce qu'il y a un profil que personne d'autre. On a plusieurs défenseurs du même profil. On pourrait perdre un Simon Benoit, un Lyubushkin ou un Munson sans problème maintenant. Par contre, un Riley, il n'y en a pas beaucoup. Puis dans cette équipe-là, il est essentiel.
Les gars, on a fait une gaffe, des trois. On a parié contre Sidney Crosby. Puis ça, faut jamais faire ça. Jamais faut parier contre Sidney Crosby. Et là, on est en train de regarder le classement avec leur victoire. Hier, on a surpris les Devils du New Jersey avec 5 buts consécutifs pour gagner 6-3. Ce qui fait que soudainement, on se réveille en ce mercredi matin et les Penguins de Pittsburgh sont seulement à 3 points d'une place en séries éliminatoires. J'avais pas ça sur ma carte de bingo lorsqu'on est arrivé à la date limite des transactions, mais il y en a un qui a décidé d'aller contre ce que nous on dit. Et ce qu'on pense, c'est Crosby qui a 15 points à ses 6 derniers matchs, qui mène cette équipe-là de main de maître offensivement et défensivement. On a peut-être trouvé une solution à court terme en Alex Nedeljkovic, qui vient de prendre la relève de Tristan Jarry, ce qui a permis aux Pingouins d'aller chercher 2 victoires consécutives, 5 victoires lors de leurs 10 derniers matchs, mais vraiment qu'on était en train de revenir. Je veux pas dire en force, mais quand même, on revient un peu, malgré certains joueurs qui continuent, qui déçoivent un peu. Tu vas pouvoir nous en parler, Hugues. Eric Carlson, ça va pas très bien pour lui. Mais là, vous regardez le classement. Est-ce que les Pingouins, est-ce qu'il y a un dernier soubresaut avec 7 matchs à faire en séries éliminatoires pour aller chercher les Capitals ou même les Flyers? Parce que là, les Flyers de Philadelphie, on est 3e de la section métropolitaine, mais on n'a plus qu'un point d'avance sur les Capitals avec 2 matchs de plus de disputés. On a 76 matchs pour les Flyers, on a 75 matchs pour les Pingouins. Donc, somme toute, avec une victoire, les Pingouins, ça, dans le match qu'on a de retard, pour avoir seulement 2 points de retard sur les Flyers, là, il y a une course dans la section métropolitaine puis il y a une course pour le 4e house dans l'Est.
Premièrement, en 2 points pour ta réponse, la première, c'est que je trouve que tu vas trop souvent au bingo. Nick, là, ta carte de bingo, non seulement elle n'est pas bien remplie.
Elle n'est pas bien bon au bingo.
Non, hein, c'est présentement, là, c'est assez décevant.
Je vais aller jouer au mini-pot. Là.
Est-ce que tu comprends les règles du jeu, Nick?
Ben, ça dépend si tu es aux 4 coins, la carte pleine, les
deux jetons. Le jeton dans le milieu, tu peux le mettre. Là.
Oui, il est gratuit, le free.
C'est ça.
Le free.
Non, okay. Je comprends. Mais effectivement, j'ai...
Un petit peu. Mais vous pas autres, le gratuit, vous autres, tu gagneras pas.
Vous êtes tellement habitué au bingo, vous avez même genre la sucette pour faire les points là, pour marquer votre carte. Vous êtes des experts de la sorte ou
Non, mais sauf que jusqu'à date, je t'entends être 0 en 8 dans ta carte de bingo depuis le début du podcast. Là, donc, j'avais pitié de toi un peu. Deuxièmement, ben, écoute.
Je l'ai à l'envers, je la tiens à l'envers. Là, les lettres sont à l'envers.
Oui, ça aide pas. Mais les pingouins.
Je me répète tant que... Non, mais attends une minute, on va régler de quoi, là. Fait que je me répète tant que ça, ce que vous dites, c'est que j'ai une béquille de bingo, là, c'est ça, là?
Non, je pensais que c'était une thématique bingo, là, que t'avais pour le podcast, parce que ça fait au moins 2 fois que tu la ramènes, et à chaque fois, tu l'as pas sur ta liste, sur ta feuille de bingo. Donc, malheureusement,
Quelqu'un a déjà dit... C'est comme le mot chaland. Quelqu'un a déjà dit le mot chaland ou c'est nonchalant, tu sais, bingo. Qui a déjà dit « j'avais ça sur ma carte de bingo »
Probablement moi, quand j'ai prédit que les Stars allaient faire la finale.
Il est fatigué avec ça. Il est fatigué. Vas-y.
Faut pas vivre dans le passé.
Je t'écoute.
Écoute, les Pingouins, leur plus grosse force présentement, c'est qu'ils jouent en haut de 500, qui est la seule équipe dans la course présentement.
Ouais,
ça leur permet de gagner du terrain à une vitesse folle, surtout que sur les Flyers, comme tu as dit, chez les Flyers, il n'y a plus rien qui va depuis une dizaine de matchs. Je pense que j'en avais parlé à l'épisode du balado qui a suivi la date limite des transactions, où on avait vu les Capitals sur une lancée irrésistible alors que la pression était tombée, qu'on s'était rangé officiellement dans le camp des vendeurs. Donc, on avait un peu, sans dire abdiquer, dire « bon, ben si on ne gagne pas cette année, c'est normal parce qu'on a déjà liquidé nos actifs. » Et là, quand il y a certaines équipes, quand on arrive dans une situation comme ça où on a pu... la pression de remporter. On n'est pas allé chercher des munitions pour aller. Il faut absolument aller en série pour rentabiliser notre investissement. Au contraire, on se fait dire, ben, écoutez les gars, on aura bien essayé cette année, puis on s'en prendra l'année prochaine. Puis là, à ce moment-là, la pression s'est évaporée. Et les deux meilleures équipes dans la course, c'est les Capitals et les Penguins présentement. Deux équipes qui ont été dans la même situation. Les deux seules équipes qui parviennent à jouer pour 500 dans la dernière ligne droite. Ce qui est un peu surprenant, disons-le. Puis quand un joueur comme Sidney Crosby joue au sommet de son art, on a vu ce qu'il a accompli cette semaine encore. Là, est allé égaler un des nombreux records de Wayne Gretzky avec le plus grand nombre de saisons consécutives avec une moyenne supérieure à 1 point par match en allant. Lui, il a déjà été chercher plus de 82 points, donc c'est déjà dans la poche. on s'est pas pu reprendre. On a parié contre Nick Crosby. C'est toujours risqué.
C'est jamais, hein?
Le problème, c'est peut-être juste que Crosby, présentement, est un peu seul sur son île à Pittsburgh. À part Brian Rust, là, tu sais, je regarde depuis le début du mois de mars, Crosby, 22 points en 18 matchs, 7 buts. Brian Rust, 14 points en 13 matchs, 8 buts. Mais derrière, là, bon, t'as Malkin à 14 points, mais je veux dire, bon, il en a fait 3 hier, puis Malkin a semblé, Seb, on s'en parlait l'autre fois, puis t'as dit le bon mot, a semblé éteint pendant de longs moments de récemment. Mais tu sais, derrière, il n'y a pas un marqueur de plus de 10 points là, lors des 18 derniers matchs de l'équipe. À part bon Malkin, Rust et Crosby. Je me demande juste si Crosby va pas tomber un peu à court d'aide dans cette course aux séries-là. Tu parlais de Washington jeudi, justement, on va avoir droit à un match Capitals-Pingouins qui risque d'être très important au classement. Ça va être bon à suivre. Mais tu sais, je regarde là, les équipes que les Pingouins ont battues récemment. Hier, les Devils, bon, c'est une belle victoire par remontée, mais ça reste les Devils qui ont des problèmes défensifs depuis le début de la saison. On a vu pourquoi hier. Après ça, on a battu les Blue Jackets. Une grosse victoire contre les Hurricanes. Mais tu sais, je regarde ce qui s'en vient, ça sera pas simple. Là. Tampa Bay samedi, les Maple Leafs lundi. Les Red Wings, encore un match qui pourrait être important au classement. Les Bruins ensuite, les Predators. Je pense que les Pingouins vont manquer d'essence dans le réservoir et ça ne sera pas à cause de Crosby, mais bien, je pense, à cause de ceux qui l'entourent. Tu as parlé de Carlson. Nick, ça va pas très bien pour lui non plus, donc peut-être un petit peu à court de munitions.
Ben, moi, je compare un peu leur situation à... tu as parlé tantôt, tu as fait un beau parallèle avec Alex Lyon des Panthers l'année dernière. Là, c'est Alex Nedeljkovic qui est en train de... C'est un peu comme Alex Lyon est arrivé un peu de nulle part, a pris le relais de Sergei Bobrovsky quand il est tombé au combat, il s'était blessé et avait sauvé la fin de saison des Panthers. Là, c'est Nedeljkovic qui est en train de... Bon, on a pris le relais de Tristan Jarry qui était sur une séquence atroce là, dans les 12 ou 15 derniers matchs.
Ces statistiques...
Vas-y, Nicolas, tu sembles être un expert.
Ben là, il a été malade, là, les deux derniers matchs. Il a été malade, là, mais c'est 11 matchs précédents. Là. C'est 11 dernières apparitions, devrais-je dire. C'est une fiche de 2-7-1 avec un pourcentage d'arrêt de 875. Puis il a été retiré 3 fois sur ses 7 derniers départs. Là, un gardien comme ça, tu te tiens le plus loin possible de ton équipe. Là. Tu sais, c'est pas le temps présentement de tenter de le relancer. Comme on dit...
ride the hot hand, comme on dit.
Ride, chevauche la main chaude, là. Ouais, mais ça se dit un peu moins. Tu y vas avec le gars qui est en feu, là, puis c'est Kod Nedeljkovic qui était pas si longtemps que ça un gardien sur qui les Red Wings ont lancé la serviette. Les Hurricanes l'avaient lancé en dessous d'autobus en décidant de... On l'avait pas qualifié, si je me trompe pas. Puis il était encore jeune. Donc lui, il a eu besoin de temps pour se remettre en forme, puis probablement mentalement aussi. Mais là, il est en train, enfin, de trouver un rythme qui pourrait lui permettre de poursuivre sa carrière dans la LNH, là.
Mais écoute, s'il devait mener son équipe en série, écoute, il n'a pas perdu en temps réglementaire là, de à ses, je pense, 7 ou 8 derniers départs. Si présentement, si c'est bon, on parlait de l'aide de Sidney Crosby, l'aide présentement, il la reçoit de la part de son gardien qui multiplie les belles performances. C'est pas dans la poche du tout, mais par contre, si je suis les équipes là, qui sont dans la course, je regarde pas sur mon épaule puis je vois Sidney Crosby qui joue comme il le fait, ça met un petit peu de pression. Je pense surtout aux Flyers parce que du côté des Capitals, on a quand même du succès. Mais je suis les Flyers de Philadelphie qui est une équipe très jeune, très inexpérimentée, où il y a un petit peu de drama en bon français, un peu du Tortorella.
Le Tortorella drama. Mais je ne sais pas à quel point cette décision-là de laisser Sean Couturier de côté. Bon, ça allait déjà pas bien à ce moment-là, là, au niveau statistique, non seulement pour Couturier, mais pour d'autres vétérans. Mais ça ne s'est pas replacé. T'sais, normalement, quand tu prends des décisions drastiques comme ça, tu t'attends à des résultats et c'est pas ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis que Couturier a été laissé de côté. Là.
Non, mais faut pas oublier que cette équipe-là.
Bon, on la voyait pas là. On la voyait pas là à la base.
Eux se voyaient pas là non plus. Daniel Brière a toujours gardé son, son focus en bon français sur le long terme. Donc oui, tant mieux si notre équipe peut performer à la hauteur des attentes, mais on ne faut pas oublier qu'on a échangé Sean Walker à la date limite des transactions. On a perdu Carter Hart en cours de saison pour des raisons qu'on connaît. Donc il y a eu plusieurs embûches. On a une équipe qu'on veut façonner pour l'avenir. Donc, je pense que John Tortorella a les yeux, comme son DG, sur le long terme, où il veut amener cette équipe-là. Donc, les messages qu'il va passer, c'est pas en fonction d'avoir des résultats peut-être à court terme, peut-être plus à long terme, quitte à piquer du nez un peu alors qu'on est en pleine course aux séries. C'est un peu paradoxal, mais je pense qu'on est réaliste. Chez les Flyers, on sait bien que c'est peut-être pas une équipe qui est bâtie pour aller jusqu'au bout, surtout dans l'association de l'Est présentement avec les équipes qu'on aurait à éliminer pour se rendre jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est des messages qui sont là pour le long terme et non pas pour le court terme.
Ce qui pourrait aider les Flyers, par contre, je regarde leur calendrier d'ici la fin de la saison, c'est un des plus faciles de la Ligue, somme toute, et on n'affronte pas les Pingouins, donc déjà là, il n'y a pas de match de 4 points à l'horizon, on n'affronte pas les Islanders, pas de match de 4 points à l'horizon, pas pareil, même chose pour Détroit qu'on ne rencontre pas, et sur toutes les équipes qu'on va affronter, il y a seulement les Capitals, qui est le dernier match de la saison, ça pourrait jouer là, on ne sait jamais. Sinon, les Rangers, une fois, mais tous les autres matchs, c'est des matchs contre Buffalo, Columbus et Montréal, donc calendrier un peu plus facile donc, pour les Flyers. Il faudra s'accrocher. Je pense que le but à Philadelphie, c'est s'accrocher, puis ensuite donner peut-être des matchs d'expérience en séries éliminatoires, comme tu disais, là, pour l'équipe, pour cette jeune équipe-là. On va en parler rapidement, mais les Red Wings et les Islanders, surtout les Islanders, là, on a parlé d'effet Patrick Roy qui n'était peut-être pas au rendez-vous, mais là, somme toute, on vient de gagner nos deux derniers matchs qui donnent une fiche de 4-5-1, quand on parlait de course de tortue, là, à nos 10 dernières rencontres, mais... On est à seulement un point des Capitals avec un match de plus de disputé quand même. Puis bon, à seulement deux points des Flyers avec un match de moins. Les Islanders, est-ce qu'ils vont venir nous surprendre en fin de saison?
Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup aux Islanders. Je crois plus aux Pingouins, même si j'ai des doutes pour les Pingouins aussi. Je crois plus un retour des Pingouins que des Islanders. Les Islanders, c'est une équipe très, très, très inconstante. Effectivement, là, récemment, ça va quand même bien, mais on a vu des déboires offensifs avec cette équipe-là, des séquences de défaites qui l'ont un peu coulé. Puis je pense qu'ultimement, ils vont arriver à court. Tu parlais d'Alex Nedeljkovic qui va bien chez les Pingouins avec Jarry qui va vraiment pas bien. On a un peu droit à une situation un peu similaire à New York. Là. C'est Ilya Sorokin, lui, qui se cherche. Là. Il a gagné hier contre les Blackhawks de Chicago, si ma mémoire est bonne. Mais je regarde depuis la mi-mars, on a divisé également les départs entre Varlamov et Sorokin. Et Varlamov a beaucoup plus de succès que Sorokin. Donc, j'ai l'impression que c'est une équipe qui se cherche présentement, qui n'est pas au sommet de son âge. Je trouve que c'est une équipe fragile, même s'ils n'ont pas une fiche qui est dramatique là, tout récemment, avec deux victoires de suite. Mais bon, ce n'est pas une équipe qui me convient, qui me convainc beaucoup. Noah Dobson, présentement, ne connaît pas des bons moments offensivement. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que j'ai beaucoup de doutes sur cette équipe-là. Pour moi, ce n'est pas une équipe que je voyais en...
Mais il y a beaucoup de vétérans. Il y a beaucoup de vétérans, mais on dirait que le niveau d'expérience, justement, c'est une équipe qui a besoin de ses gardiens, c'est évident. Puis quand Sorokin ne fait pas le travail, tu te croises les doigts avec Varlamov, c'est une bonne séquence pour lui présentement, mais
c'est une équipe qui manque de punch offensif, je te laisse continuer, mais c'est ça, c'est une équipe, je trouve, qui manque de punch en dehors de Matt Barzal, en dehors de Bo Horvat. On a pas grand-chose. C'est pas une équipe que si ces gars-là fonctionnent pas un soir, ton 3e ou 4e trio, ton 2e trio va te faire gagner le match. Là. Comme tu dis, c'est si Barzal et Horvat, ça ne fonctionne pas, il faut que les gardiens fassent les arrêts, sinon ça va faire pouet-pouet. Puis là, ça fait pouet-pouet.
C'est une équipe qui est plus taillée pour les séries.
Oui, mais il faut les faire.
C'était le défi de plusieurs équipes dans les dernières années. Je veux dire, regardez les Panthers l'année dernière. On a affronté une équipe qui était faite pour la saison, puis on les a battus, les Bruins. Des équipes qui sont sur la ligne, la mince ligne comme ça, faut que tu, comme tu dis, faut que tu réussisses à faire les séries éliminatoires, mais après ça, les Islanders ont prouvé dans les dernières années qu'une fois, c'est le même noyau, là. C'est un peu plus vieux, mais somme toute, c'est le même noyau. Donc, en séries éliminatoires, l'année dernière, on a failli éliminer les Hurricanes aussi. Leur but, c'est de se rendre aux séries éliminatoires et c'est peut-être cette année où, justement, ça ne sera pas suffisant, surtout dans cette course-là, là, où il y a quand même plusieurs aspirants.
Oui, bon, on a misé sur l'effet Patrick Roy. On a vu d'autres équipes changer d'entraîneur, puis ça a produit un petit électrochoc. On pense aux Oilers d'Edmonton, on pense aux Prédateurs de Nashville. Pas les Prédateurs, je suis désolé. Oui. John Haines est arrivé, c'est ça. Donc, on a misé là-dessus, puis on l'effet a été, disons, limité.
Non, pas les Predators. C'est Andrew Brunette. Andrew Brunette, depuis le début de la saison, on est...
Moi, je suis vraiment désolé. C'est John Hines est avec le Wild, les Kings, les Oilers. On a eu plusieurs équipes là, qui ont un peu, entre guillemets, sauvé leur saison en changeant d'entraîneur. Puis on a pris ce pari-là chez les Islanders. L'effet a été limité. Surtout qu'on n'a pas donné d'aide à Patrick Roy à la date limite des transactions. C'était, bon, écoute, notre acquisition, c'est Patrick Roy, donc laissons-le opérer sa magie. Mais là, c'est une équipe qui ne marque pas, qui accorde beaucoup de buts, qui n'a pas des bonnes unités spéciales. Alors, les derniers 10 matchs, là, sont très moyens dans toutes les sphères du jeu. Leurs gardiens ne font pas les arrêts. Donc, c'est difficile de voir où cette équipe-là va prendre cette étincelle. Sachant que là, l'effet Patrick Roy, là, ça a une durée limitée dans le temps. Là. On ne peut pas penser que les joueurs vont soudainement là,
s'allumer.
Exact, après presque 2 mois là, de la présence de Patrick Roy derrière le banc.
Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il faut que ça vienne des vétérans là, du côté de Long Island. Les gars, je vous amène dans l'Ouest. Course aux séries, peut-être, je dirais, un peu moins palpitante, peut-être moins de. Et avec la qualité du jeu des Predators. Quoique là, les Predators viennent d'en perdre 3 de suite. Les Kings de Los Angeles aussi. Et les Blues de Saint-Louis qui, malgré une saison décevante, commencent lentement mais sûrement à prendre du rythme. On a 7 victoires dans nos 10 derniers matchs. On est à 3 points des Kings avec un match de plus de disputé. Il reste 7 matchs à notre saison, 8 pour la saison des Kings. Les Blues, les voyez-vous venir grappiller à 7 points pour aller chercher les Kings? Où sommes toutes les Kings dans cette saison complètement, je veux pas dire folle, là, mais complètement sans constance?
Folle,
vraiment
folle.
Une saison de phase, si je puis dire. Les Kings vont réussir à s'accrocher, puis après ça, se croiser les doigts en première ronde, tout dépendant qui on va affronter, là.
Une saison folle des Kings. Moi, je trouve que t'as le bon
mot.
C'est une équipe capable du meilleur comme du pire. Tu sais jamais à quel Kings tu vas avoir droit au début d'un match. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, mais avant ça, ils ont gagné leurs 4 matchs précédents. Puis, t'sais, une grosse victoire de 3-2 contre les Canucks. Ils ont battu le Lightning en prolongation. Ils ont démoli le Wild du Minnesota 6-0. On dirait que c'est une équipe qui a un soir capable d'accorder 5 buts, puis là tu te dis, mon Dieu, cette équipe-là va se faire les séries éliminatoires, puis si oui, va se faire sortir rapidement au premier tour. Puis des fois, tu as droit à une équipe, tu te dis, je vois cette équipe-là aller super loin en série. Donc c'est vraiment, tu sais jamais à quoi t'attendre de cette équipe-là. Moi, je pense qu'ils vont quand même tenir le coup. Encore une fois, ils ont un match en main sur les Blues, ce qui va évidemment les aider. Puis ils ont aussi, on en parlait avant d'amorcer le podcast, ils ont aussi un calendrier très facile. Là. Mis à part les Canucks de Vancouver qu'on va affronter, le reste des adversaires, c'est faut que tu gagnes le trois quarts de ces matchs-là, même 80-85% de ces matchs-là. Je veux dire, t'as les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago, les Ducks d'Anaheim 2 fois. Là, je veux dire, c'est des 3 équipes qui vont être dans la loterie pour Macklin Celebrini, ça. Donc, t'as pas vraiment le droit à l'erreur contre eux. Après, bon, les Flames, c'est pas nécessairement facile, le Wild non plus. Le Kraken. Je pense que les Kings sont favoris. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que j'y crois quand même aux Kings, mais le manque de constance de cette équipe-là, c'est vraiment, vraiment inexplicable parce qu'on a, on a, on a des bons éléments quand même. Là, on a pas, c'est pas, on a, offensivement, on est capable de marquer des buts. Donc, je trouve ça augure mal pour eux en série. Je pense pas qu'ils vont faire un long bout de chemin, mais. Je pense qu'ils vont tenir le coup pour ça. Là.
Et là, Andy Kopitar qui fonctionne comme Andy Kopitar a fonctionné la majeure partie de sa carrière, mais là, Philippe Danault est blessé et ça place Pierre-Luc Dubois sur le. Beaucoup de responsabilités sur les épaules de Pierre-Luc Dubois au niveau de la ligne de centre. Et Dubois, bon, il n'y a rien, ça ne colle pas. Là. Je veux dire, ça n'a pas collé en début de saison, ça n'a pas collé à la mi-saison, puis ça ne colle pas plus présentement. Donc, il y a peut-être une petite faiblesse au niveau du centre. Tu parlais de l'horaire, par contre, le calendrier. C'est vrai que les Kings ont un calendrier quand même facile, mais c'est aussi le cas pour Saint-Louis. À vrai dire, les deux équipes ont les deux calendriers les plus faciles d'ici à la fin de la saison. Ouais. Un petit voyage dans l'Ouest. La seule différence, c'est que Saint-Louis a seulement 3 matchs sur 7 à domicile, tandis que les Kings, c'est 6 sur 8. Donc ça, ça peut faire une différence. Mais San Jose, Anaheim, Chicago dans les 3 prochains matchs, c'est assez prenable, merci, là, pour les Blues. Donc si tu vas chercher 3 victoires consécutives, ben au moins tu te places dans une bonne... La pression est sur les Kings. Ça, il n'y a pas de doute, la pression est sur les Kings, mais il est peut-être un petit peu trop tard pour les Blues, là, selon moi. C'est le portrait de la course aux séries éliminatoires dans l'Ouest. On a parlé de l'Est. Maintenant, une autre course dont je veux parler un peu, surtout d'une équipe, c'est celle pour le Trophée des présidents. Présentement, là, en ce mercredi matin, lorsqu'on regarde le classement, les Rangers de New York sont au sommet avec 104 points, suivis des Stars de Dallas avec 103 et les Bruins de Boston aussi avec le même nombre de points, mais avec un match de plus de disputé. Les Rangers qui ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs, les Stars 8. Premièrement, si vous avez à pouvoir annoncer présentement, vous favorisez laquelle de ces 3 équipes-là ou peut-être une autre? Je vous écoute.
Ben écoute, ça va être très, 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 très serré là, jusqu'à la fin. Difficile de miser contre les Stars avec l'élan qu'ils ont présentement. 7 victoires de suite. On pourra s'en reparler après le match contre Edmonton ce soir, ça va nous donner une meilleure idée. Les Rangers
on pourra pas s'en reparler, le balado va être terminé, ça.
Oui, je sais, mais ça me donne du temps pour préparer mon explication pour la semaine prochaine. Mais les Stars ont toujours eu une très belle équipe, puis on n'a pas été spectaculaire à la limite des transactions. On a ajouté un Chris Tanev qui était peut-être le seul élément qui nous manquait. On a une attaque tellement équilibrée. On peut gagner de toutes les façons à Dallas. Et là, on a rien de gagner de toutes les façons. Avec les on le voit, là, une séquence irrésistible. Puis quand on arrive en fin de saison comme ça, ça fait boule de neige. Je pense que les Stars, dans une section qui est vraiment pas facile, sont vraiment en train là, de prendre du galon. Les Rangers, dans l'Est, je pense qu'on est en train de montrer qu'on est très sérieux. Par contre, la seule chose que j'aimerais voir chez les Rangers, parce qu'on sait qu'on a on a tenté d'apprendre peut-être des erreurs passées, mais là, on est encore en une situation où il y a seulement un trio qui fonctionne à la fois. Tant mieux s'il y en a un qui fonctionne, mais là, ce serait bien que peut-être qu'on ne sente pas cette pression-là d'un côté ou de l'autre. Là, présentement, c'est le trio de Lafrenière, Trocheck et Panarin qui fonctionne à plein régime. Petite baisse de régime assez marquée là, de celui de Kreider, Zibanejad. Donc, c'est quelque chose qui nous a coulé l'année dernière en série, qu'on n'a pas été capable de percer le mystère Akira Schmidt des Devils du New Jersey. On semble en voie d'être... On a une équipe sur papier qui est capable de faire beaucoup mieux. On est allé chercher des joueurs qui, à mon avis, sont plus complémentaires, comme les Jack Roslovich. Par contre, on sait qu'on a un des meilleurs gardiens au monde devant le filet, mais c'est ce que ces statistiques montrent, malgré le fait que l'équipe gagne. Donc, où on va se situer, quand les séries vont commencer, on dirait que j'ai plus de points d'interrogation du côté des Rangers que j'en ai du côté des Stars, présentement.
Pour répondre à ta question rapidement, ouais. Je te laisse la parole. Moi aussi, j'avantagerais peut-être un peu plus les Stars pour terminer au sommet.
Et on sait que le trophée du président, c'est le trophée presque tu veux pas. Parce que quoi, la dernière équipe qui a gagné la Coupe cette année et le trophée du président, c'était en 2012.
C'était pas Chicago,
je crois, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais. C'était en 2000. Je me souviens pas en quelle année.
2012,
c'était les Kings qui ont gagné.
Ça vaut-tu 10 ans? Faut-tu 10 ans que la meilleure équipe en saison n'a pas gagné la Coupe cette année? Et quand je regarde pour exactement ce que tu viens de dire, Seb, c'est ce qui me fait dire que peut-être les Rangers vont gagner le trophée du président parce que, à mon avis, c'est pas une équipe qui. Je pense qu'il va en manquer un petit peu pour aller chercher la Coupe cette année, surtout sur le flanc droit. Mais bon, parlons-en des Rangers. Je vais en parler un peu parce que tu l'as dit, il y a un trio qui fonctionne à merveille présentement. Artemi Panarin, Vincent Trocheck et Alexis Lafrenière à droite. Panarin, présentement, est en train d'élever son jeu. C'est peut-être un petit peu tard dans la saison pour le placer dans les courses pour le Trophée Hart. Trophée Hart Ross, bon, il n'est pas vraiment là. Mais... C'est un joueur qui est en train de finir en force là, présentement avec ses statistiques, avec la qualité de son jeu.
Ah, écoute, il est en train de connaître. S'il récolte 2 points d'ici la fin de la saison, on va avoir la deuxième meilleure saison de l'histoire des Rangers offensivement. Il est à 108 points présentement. presque 2 points par match à ses 15 derniers. Ça va très, très bien. Vous savez que c'est triste pour lui qu'il y a un trio de tête tellement dominant qu'il ne sera pas du tout dans la course là, pour les autant peut-être le trophée Hart que Hart Trust, mais la saison d'Artemi Panarin, c'est sa meilleure en carrière, puis on dirait qu'elle passe sous silence. Donc, c'est de bonne augure pour lui et pour les Rangers, mais il faut voir que quelqu'un se lève derrière lui pour l'aider. Là.
Justement, tu parles derrière lui, Adam Fox, derrière, défenseur, je prends le lien. Là. Hugues, tu signes une chronique Pouleurs ce matin sur le site de lnh.com où tu en parles d'Adam Fox, parce que lui aussi, il y a une saison peut-être pas aussi dominante que les dernières, mais c'est en train de terminer sur une bonne note.
Oui, ben c'est ça que je soulignais hier dans le top 50 des défenseurs, c'est que bon, à ses 17 derniers matchs, 20 points, en partant plus d'un point par match, pas été blanchi dans 2 rencontres de suite depuis les 22 et 24 février. Noirci la feuille de pointage 14 fois en 17 matchs depuis ces dates-là. Donc, ça va très bien pour Fox. Puis, ce qui est intéressant du côté de Fox, c'est que lui, qui a tout le temps été considéré comme un passeur plus qu'un marqueur de but, ben là, présentement, est en train de changer un petit peu son identité. Je regardais ça au cours des 17 derniers matchs. Il a décoché 43 tirs. Donc, c'est 2,5 en moyenne. En début de saison, c'était 1,6 tirs par match. Pour faire un portrait rapide, là, il y a 12 buts depuis le 6 janvier, puis 12 buts, ben, c'est son total de l'année dernière. Donc oui, c'est un joueur qui, on savait que ça allait être un joueur qui allait faire la différence pour les Rangers avant la saison, mais reste qu'il y a une petite coche de plus quand même. Puis moi, j'ai aussi le goût de te parler, t'en as parlé, mais d'Alexis Lafrenière.
Oui, c'est
qui,
ça, j'allais là.
Je pense que on...
Est-ce qu'Alexis Lafrenière est arrivé? Celui qu'on a repêché au premier rang et qu'on avait des grandes attentes, ça a été long, mais l'important, c'est pas le temps que ça prend, c'est la destination, comme on dit.
Ben moi, je pense que oui. Lafrenière, présentement, joue du gros hockey, puis on le voit même quand il noircit pas la feuille de pointage. Dans le junior, puis je me souviens au championnat mondial junior, Lafrenière, qui avait dominé les joueurs de son groupe d'âge, il dominait parce que physiquement, il allait dans le coin, il frappait, il sortait avec la rondelle. On le voyait pas faire ça à ses 3 premières saisons avec les Rangers. Moi, je trouvais qu'il était souvent un joueur qui était en retard sur le jeu. Puis là, présentement, on sent que le jeu vient à lui. On sent qu'il est en avance sur le jeu. Puis on le voit, il récupère des rondelles. Il est capable de mettre la table pour Panarin et vice-versa. Il se démarque, ce qu'il faisait pas. Puis je vais terminer là-dessus. Mais tu sais, Lafrenière, c'est quoi? C'est 52 points, je pense, cette saison.
Oui.
46 points à force égale. Je mets ça en contexte, là, mais il est devant, pour les points à force égale, il est devant des joueurs comme Nico Hischier, Alexander Barkov, Joe Pavelski, Evgeny Malkin. Je veux dire, c'est pas rien quand même. Mettez-le sur la première vague du jeu de puissance présentement, Lafrenière. Il y a quoi, peut-être 15 points sur le jeu de puissance au lieu de 6, peut-être proche de 20. Là, on parle pas d'une saison de 52 points, on parle d'une saison de 62, 65, ça approche du plateau des 70 points. Donc,
Faut
mettre ça en contexte, il faut garder ça en tête quand même. Il joue pas du tout ou presque pas sur le jeu de puissance, Lafrenière.
J'allais ajouter sur sa séquence récente, là, de ses 15 derniers matchs, il y a 16 points, un seul en avantage numérique.
Mais ça, moi, ça sert. Pour ce qui est de l'éclosion, c'est vraiment, tu as parlé justement du fait qu'il était dominant physiquement au championnat mondial junior. Dans les rangs juniors, Alexis Lafrenière, oui, a un talent au-dessus de la moyenne, mais était physiquement dominant dans les rangs juniors. C'était pas un gars à la Patrick Kane avec les mains qui déjouait tout le monde un après l'autre. C'était un joueur qui était physiquement dominant dans les rangs juniors parce qu'il jouait contre des joueurs de 16, 17, 18, 19 ans. Il était déjà plus physiquement développé que ces joueurs-là. Il est arrivé dans la Ligue nationale, mais là, quand il veut couper au filet après avoir débordé l'aile, mais que mon oncle défenseur de 32 ans qui a passé sa vie en gym fait juste mettre sa main sur son épaule, il dit « Non, mon jeune, là, tu passes pas. » Ben, ça a pris, tu sais, il a fallu qu'il s'adapte. Son jeu a eu à s'adapter. Il a physiquement pris de la maturité dans les 4 dernières saisons. Et là, on voit qu'il devient le joueur qu'il était à ses dernières années juniors, physiquement capable de faire ce qui lui a permis de connaître du succès dans les rangs juniors, mais il est capable de le transposer dans la Ligue nationale. Mais c'était pas le type de joueur qui avait un talent individuel tellement supérieur ou un lancer supérieur à la moyenne, un peu un lancer à la Connor Bedard ou des mains à la Patrick Kane ou une vitesse à la Connor McDavid. C'était vraiment un physique dominant. Et sauf que là, ce physique dominant-là n'était pas il n'était pas dominant physiquement à son arrivée dans la Ligue nationale. Donc, 4 ans plus tard, il commence à avoir cette maturité physique-là qui lui permet de jouer de la même façon que dans les rangs juniors et on voit que le succès suit avec ça.
C'est qu'on rapidement, t'sais, quand on dit que le jeu ralentit pour un joueur plus vieilli, je trouve que c'est ça dans le cas de Lafrenière. On sent vraiment que le jeu ralentit pour lui et qu'il est plus capable d'aller aux bons endroits et de s'impliquer physiquement.
C'est qu'on le voyait pas à l'époque quand on nous en parlait. C'est qu'on s'attendait peut-être moins à ce que sa courbe de développement soit celle d'un attaquant de puissance. Ce qu'elle est présentement, tu sais, je regarde, il y en a d'autres attaquants de puissance qui sont arrivés, les Tage Thompson, et tu sais, je regarde à Washington, Ryan Leonard, là, ça va très bien dans la NCAA, mais lorsqu'il va arriver en haut, va arriver chez les pros, choix sixième total, je pense, au dernier pêchage, Leonard, va avoir besoin de temps, il ne commencera pas à produire immédiatement. Donc, Lafrenière, je pense qu'on le voyait plus talentueux, tu sais, plus d'habileté brute, lorsqu'il a été repêché, que finalement, ce qu'on se rend compte, mais là, il l'a gagné, comme vous avez dit, a su comment amalgamer le côté physique et le côté habileté de son jeu pour devenir, soyons francs, jouer avec Artemi Panarin pour te la mettre sur la palette. C'est pas mauvais non plus, pas ça vient bien, aider, ça vient aider quelque peu. Les gars, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui. C'est ainsi qu'on va mettre un terme à cette belle discussion.
Mais merci à toi, Nicolas, puis je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochaines parties de bingo.
Oui, toujours. Je ne sais pas, je vais me mettre...
bon courage.
Shuffleboard ou je ne sais pas. Là, je vais changer mes habitudes visiblement. J'aurais dû mettre ma carte de bingo, regarder, par contre, que tu allais revenir là-dessus, là, par exemple. Ça, j'aurais dû.
Ouais, en tout cas, arrête de te fier à ta carte de bingo pour prédire les choses, parce que ça regarde très mal. Merci Nick.
Seb, merci d'avoir été là. Hugues, merci. On peut lire vos textes sur lnh.com. Merci à Jean-François Chaumont qui était là plus tôt dans l'émission. Ses textes aussi avec ses rencontres des derniers jours, c'est sur lnh.com. Suivez-nous, réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH _FR sur Twitter, Instagram et Threads. Abonnez-vous, suivez le balado pour être certain de ne pas rater. Prochain balado mercredi prochain et par la suite, on va presque être en mode séries éliminatoires. Donc, plus qu'un balado à la saison avant de se lancer en séries éliminatoires. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je commence à avoir très, très hâte. J'en parlais avec GF un peu plus tôt dans le balado. Et surtout, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle très bientôt.